Philosophie politique, Père Philippe Saint-Joseph, le 23 octobre 1984.
Donc, nous allons continuer cette petite introduction. Je vous rappelais la fois dernière que le problème de la philosophie politique se posait d'une façon tout à fait différente en philosophie grecque que dans notre monde d'aujourd'hui. Et je crois que c'est très important de bien saisir ces deux manières d'aborder le problème. En philosophie grecque, on peut dire que la politique a été première. Regardez les sages. Les sages, qu'on appelle les sages, il faut toujours se rappeler les sept sages, ce sont des hommes qui sont des hommes politiques. C'est comme Moïse. Moïse est un homme politique. Ce serait très intéressant de mettre un parallèle entre les sept sages de la Grèce et puis Moïse, et regarder comment Moïse, homme politique, comparativement à Solon. Ce sont des hommes politiques en ce sens que ce sont des hommes qui étaient là pour organiser la cité, lui donner des lois, l'aider à découvrir profondément ce que représente la finalité. Oui, de temps en temps, on aurait aimé les envoyer promener ces haut-parleurs. Oui, je crois qu'on n'entendrait pas dans le fond alors. Alors, c'est de fait l'homme politique, le sage, qui donne à la communauté humaine son ordre, son organisation, son orientation. Puis alors, c'est posé ensuite le problème de l'éthique personnelle. Si on compare Aristote et Platon au niveau éthique, je crois que là, il y a un point de vue extrêmement important à saisir. On essaiera de saisir, parce que ce sera le premier problème qu'on verra. Tandis qu'au contraire, dans notre perspective d'aujourd'hui, l'éthique personnelle a gagné sa place. Au fond, on ne discute plus sur l'éthique personnelle. On posera des fondements très différents au point de vue éthique personnelle. Par exemple, je prends Monod, n'hésitant pas de dire que le fondement de l'éthique personnelle doit être la science biologique. Il l'a dit dans les rencontres à Genève. C'est comme ça qu'il faut fonder une nouvelle éthique à partir de la biologie. Regardez la manière dont Nietzsche verrait une éthique, ce serait à partir de la création artistique, de la créativité, de la volonté de puissance. On pourrait découvrir le surhomme. Et on aurait là une éthique personnelle. La manière même de Sartre, il ne nie pas l'éthique. Hein. Je crois que très très peu on nie l'éthique. Je ne sais pas s'il faudrait voir s'il y a un philosophe qui a nié complètement l'éthique. Je ne crois pas. C'est pour ça que j'aime de dire que les vertus cardinales, c'est l'œcuménisme philosophique. Vous voyez, c'est le noyau auquel on retrouve pratiquement tous les philosophes. C'est très curieux, c'est autour de l'éthique. Autour de l'éthique, pratiquement tous les philosophes sont d'accord qu'il y a une responsabilité humaine, qu'il y a un respect à avoir vis-à-vis de l'autre, et que l'éthique repose sur ce point de vue du respect. Vous voyez ? Posez-vous la question, quand vous voyez tel ou tel auteur, au point de vue de l'histoire de la pensée, l'histoire philosophique, posez-vous la question, par rapport au moderne, quel est le fondement de leur éthique? Et est-ce que vous découvrez un philosophe qui rejetterait toute éthique personnelle? Je ne crois pas, personnellement. Je crois que tous ont accepté une éthique personnelle. L'éthique ancienne reposait sur l'aspect donc politique et des traditions religieuses. Je crois que c'était les deux fondements de l'éthique ancienne. Comme les traditions religieuses ne sont plus reconnues dans leur valeur propre, comme le point de vue politique a pris une tournure tout à fait d'ordre économique, on peut dire que c'est le point de vue économique qui l'emporte. C'est en ce sens-là que Marx avait quelque chose de prophétique, si j'ose dire, entre guillemets, mais qu'il annonçait que de fait c'était le point de vue économique qui devait commander tout. L'éthique personnelle est restée, l'éthique individuelle est restée, mais l'éthique politique, vous n'avez qu'à regarder au moment où l'on doit voter pour les différents candidats du Parlement. Quand vous regardez les programmes politiques, regardez ce qu'il y a de morale politique là-dedans, ce qu'il y a de philosophie politique. C'est uniquement l'intérêt économique. C'est l'intérêt économique. L'intérêt économique et le point de vue économique ne peut pas fonder une philosophie politique. Donc, on doit se poser la question aujourd'hui, y a-t-il une philosophie politique? Et sur quoi se fonde une philosophie politique? Comme on doit se poser aujourd'hui, sur quoi se fonde une éthique personnelle? Alors, sur l'éthique personnelle, je vous avais dit, après Nietzsche, parce que Nietzsche va très loin dans ce domaine-là, face à Kant, après Nietzsche, avant Nietzsche, on pouvait s'appuyer sur Kant. Beaucoup, beaucoup s'appuyer sur Kant, la morale du devoir. Ça avait même contaminé toute la morale de saint Thomas. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que des thomistes fervents au point de vue moral, comme le père Ramirez, le père Demand, et à Fribourg actuellement, c'est au fond montrer que la morale du devoir n'est pas celle de saint Thomas. Que la morale de saint Thomas, c'est la morale du bonheur. Aujourd'hui, traduisons le bonheur autrement, parce que quand on parle du bonheur, les gens croient qu'on est encore lié au Père Noël, et donc ça ne va pas très bien, parce que quand on dit « moi je suis pour la morale du bonheur », oui je comprends, vis un peu, tu verras le bonheur, est-ce que tu vas le trouver ? Et c'est très vrai, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est pour une morale de bonheur, mais je ne crois pas. Camus l'a dit avec beaucoup de force. Alors Camus, lui, voyait une morale esthétique, par le point de vue du mot. C'est très intéressant de voir ça, vous voyez, ça vaut la peine d'essayer de comprendre tous les fondements de la morale tels qu'on les voit dans les philosophies contemporaines. Quand on arrive à la philosophie politique, on ne voit pas. Je crois que c'est le bien commun. Mais ce n'est pas commode de faire accepter le bien commun. Je vous ai dit l'autre jour, dans un petit groupe, je vais rarement, mais là j'ai accepté parce que c'était à propos du libéralisme, du socialisme, et là il y avait un petit noyau de gens, c'était une table ronde, c'était intéressant à se rencontrer, puis c'était par rapport au livre de Michel Garrigue, il y avait Besançon qui était là, et il y avait Pauwels aussi qui était là, donc tous les gens qui m'avaient supplié de venir, pour qu'il y ait sans doute une robe blanche au milieu de tout ça. J'ai accepté, parce que je crois que de temps en temps, il faut être là présent. Il y en a un qui est de Aix-en-Provence, qui est un professeur de droit, qui aime beaucoup saint Thomas, qui tout d'un coup a sorti le bien commun. Alors, réaction, pouvons-nous encore parler du bien commun aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore parler du bien commun? C'est la tarte à la crème pour les thomistes, mais est-ce qu'on peut encore parler du bien commun? Et c'est vrai, je comprends très bien que la question se pose, est-ce qu'on peut en parler? Exactement comme l'autre disait, on parlait de la nature, mais est-ce qu'on peut encore parler de la nature aujourd'hui? Alors, vous voyez, il y a deux questions qui se posent à ce moment-là. Il y a la question de savoir, Est-ce que certains mots sont tellement piégés qu'on ne peut plus en parler? On le sait. Alors on se dit adintrant. C'est un poison qu'on peut prendre, mais adintrant, surtout pas dextrant. Dès que vous parlez à l'extérieur, faites attention. Il faut être suffisamment intelligent pour comprendre ce qu'est la mentalité d'aujourd'hui, ce que représente la mentalité d'aujourd'hui, et ne sortez pas béatement des choses qui tout de suite vous mettent une étiquette sur le dos, c'est pas la peine, ça ne sert à rien, c'est pire que tout. Alors il faut savoir les mots piégés qu'on ne peut pas employer. Mais ça ne veut pas dire que ces mots ne signifient rien. Si on les comprend bien, il faudrait voir comment on peut leur donner comme un nouvel habit, une nouvelle expression. C'est sûrement une des choses qu'on doit faire en philosophie politique. Alors, même si le mot « bien commun » est très piégé, qu'on ne sait plus très bien ce que c'est, essayons de comprendre, est-ce que une communauté dans laquelle il n'y aurait aucune recherche d'un bien commun, on va préciser ce que c'est, est-ce qu'on peut encore parler d'une philosophie politique? Je reviens à la question que je vous avais posée la dernière fois. Parce que je crois que c'est la question qui nous permet de parler d'une philosophie politique. Autrement, je ne sais pas si on peut en parler. Je ne vois pas, personnellement. Alors, on va essayer de traiter cette question-là. Alors, qu'est-ce que c'est que le bien commun? Le bien commun, vous avez bien, il n'y a pas beaucoup de lieux dans Aristote. Fameux lieu tout le temps qu'on vous sort et qui est du reste impressionnant du reste hein, que le bien commun vaut mieux que le bien individuel et que le bien individuel vous en fait. Alors on dira donc Aristote n'est pas pour une éthique personnelle. Aristote met au-dessus de tout le bien commun. Or Aristote dans un autre lieu des métaphysiques fait comprendre que le bien commun est un bien immanent. Il y a le bien transcendant. Aristote montre que le bien immanent est ordonné au bien transcendant. Le bien transcendant, vous comprenez très bien, c'est Dieu. Et le bien immanent ne peut être que le bien commun. Alors, quand Aristote dans l'éthique parle de la contemplation elle regarde Dieu. Et donc quand il dit que le bonheur le plus parfait c'est la contemplation, ça prouve qu'Aristote reconnaît qu'il y a un bien personnel au-delà du bien commun. Tout simplement, il suffit de faire appel à la métaphysique et au chapitre 10 de l'éthique. Alors à ce moment-là, on s'aperçoit tout à fait bien. Il faut donc interpréter ce fameux lieu dans l'ensemble de la pensée d'Aristote, comme toujours. Il ne faut jamais uniquement retirer une pièce de l'ensemble et puis se mettre à jongler là-dessus. Quand Aristote parle donc du bien individuel, il montre la recherche d'un bien qui est égocentrique. Notre propre bien, mais qui n'est pas du tout la contemplation. C'est tout à fait différent. Qui n'est pas non plus l'amitié. L'amitié n'est pas un bien individuel, puisque c'est bien d'amis. On en est moins d'eux. Il y a une chose. C'est donc pas le bien individuel. Le bien individuel, c'est celui qui au fond, est pris, on dirait aujourd'hui, par une concupiscence et qui ne cherche que son bien. Vous vous précipitez au réfectoire, hein, vous voyez que la grappe de raisin du voisin est plus grosse que la vôtre, et puis, sans que personne ne soit là, vous changez. Bien individuel qui passe au bien commun. Vous voyez bien cette chose-là. Alors là, vous comprenez tout de suite la différence entre le bien individuel et le bien commun. Et vous êtes tout à fait d'accord que le bien individuel passe après le bien commun. Le bien commun, c'est que, évidemment, celui qui a un estomac plus grand est normalement le gras plus gros. Normalement, ça devrait être comme ça, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours comme ça qu'on fait. Et parce que c'est difficile de jauger la dimension de l'estomac. Mais si je prends cet exemple-là, prenez-en des quantités d'autres, les autres, comme ça aussi, le bien individuel, ah, je prends le meilleur. Attention, Vous allez dans une toute petite course, vous ne savez pas que peut-être quelques heures après, il y aura quelqu'un qui devra là-bas. Vous ne faites pas attention au bien commun. Alors quand on pense au bien commun, on est toujours à se dire, oui, c'est très vrai, j'aimerais mieux cette chose-là, mais il y en a peut-être d'autres qui doivent passer avant moi. On a le souci de l'autre qui passe devant. C'est ça le souci. Et c'est ça qu'Aristote veut dire. C'est que le bien individuel, on sait très bien ce que c'est que le bien individuel. Hein. On mobilise ce qui nous semble le plus intéressant. Et on le mobilise parce qu'on sait très bien qu'il y en aura d'autres qui ne chercheront pas. Plutôt de laisser. Voyez, on a par exemple dans sa cellule des livres philosophiques dont on se sert une fois l'an. C'est pas arrivé. Et on sait que d'autres pourraient s'en servir. Le bien commun consiste à dire, je vais mettre mes livres au service de tous. Et finalement, c'est plus agréable de les avoir chez soi. C'est sûr. Oui, agréable. Voilà, c'est pas vraiment bien. Donc, c'est la concupiscence. Je crois que quand Aristote parle de ce bien individuel, c'est nécessairement l'individu au sens le plus fort, et non pas du tout le point de vue de la contemplation. Donc, au fond, il faut distinguer le bien commun, le bien individuel et le bien personnel, qui est à la fois l'amitié, l'amour d'amitié, la filia, l'amour, et la contemplation. Vous avez trois. Distinguons bien les trois. Le bien est ce que tous désirent. Là, je prends au point de vue individuel. Le bien est ce que tous, et au point de vue personnel aussi. Ça remplit tout, c'est le bien. Le bien, c'est que tout désire. Bien. L'individu peut désirer du chocolat. C'est un bien individuel. Votre amour pour le chocolat, c'est un bien individuel. Si vous êtes d'une générosité extraordinaire, vous avez une grande boîte, vous la donnez à la vie commune pour brûler. Ah, c'est le bien commun. Ça change, c'est du bien commun. Vous l'avez offert. Vous l'avez offert à la communauté. Alors, ce sera le bien commun. Évidemment, votre part sera moins grosse, mais vous en serez très heureux parce que tout le monde pourra l'avoir. Mais ce n'est pas encore le bien personnel. Hein. Évidemment, vous pouvez donner du chocolat pour capter la bienveillance d'un ami. Ça peut se faire. Alors à ce moment-là, ce bien individuel sera ordonné vers le point de vue d'amitié. Et puis peut-être hein, qu'en prenant du chocolat, vous serez de bonne disposition pour la contemplation. Ça peut arriver quelquefois, vous êtes de bonne humeur. Quand il y a une mauvaise humeur, c'est plus difficile. Vous êtes là, on est de bonne humeur. Donc c'est plus calme. Alors à ce moment-là, ce bien individuel est relativisé par un bien d'amitié et relativisé par la contemplation. Il y en a qui contemplent qu'après avoir pris un petit verre d'alcool. Que vous voulez dire. C'est la seule manière de contempler. Alors il leur faudrait un petit verre d'alcool à l'entrée du cœur, juste avant la maison. Ça aiderait un peu, n'est-ce pas? Ça chaufferait le cerveau. Alors, le bien individuel, c'est le bien individuel. Il faut saisir. Quand Aristote parle du bien individuel, du bien commun et le bien personnel. Le bien personnel ne s'oppose pas au bien commun. Il est au-dessus. Tandis que le bien individuel peut s'opposer. Et donc, quand Aristote met l'opposition, ça prouve justement que c'est le bien individuel. Autrement, il ne ferait pas l'opposition. On ne pourrait pas dire, ça n'arrête pas de sens de dire que le bien commun est supérieur au bien personnel, qui est l'amitié et qui est la contemplation. Ça irait contre tous les principes de la métaphysique. Ça irait contre toute l'éthique elle-même. Donc ça montre bien qu'il ne faut pas opposer. Alors, ceci simplement pour éviter une erreur. Qu'est-ce que c'est que le bien commun? Aristote ne précise pas. Il n'a jamais dit ce que c'était que le bien commun. Saint Thomas l'a repris, il n'a pas beaucoup précisé. Alors il s'agit de comprendre qu'est-ce que c'est que le bien commun. Alors, premier caractère, le bien commun, c'est nécessairement le bien de tous. Donc c'est un bien immanent à la communauté. C'est un bien qui est le bien de tous, et donc qui pour chacun est supérieur à l'individu. C'est pour ça qu'on dit respecter le bien commun. Le bien individuel, vous n'avez pas à le respecter. Vous vous en usez, c'est tout. Tant pis, quand on sera usé, il sera usé. Alors, si vous êtes intelligent, vous faites grande attention à votre bien individuel. Oui, oui, ça, pas besoin de le demander. Tandis qu'au contraire, le bien commun, respectez le bien commun. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas le seul à en user. Ah, l'usage. Vous en usez, mais il y en a d'autres qui doivent en user. Et ce bien commun, il échappe à votre droit. Vous n'avez pas un droit de propriété sur le bien commun. Le bien individuel a un droit de propriété. Ce champ m'appartient. Oui, le droit de propriété, il est à l'égard du bien individuel. Il n'est pas à l'égard d'un bien personnel. Je n'ai pas de propriété à l'égard d'un ami. Je n'ai aucune propriété à l'égard de la contemplation. Donc, le droit de propriété, c'est ça qui est au fond très important, il est d'une certaine... Je dis ce qu'on l'entend aujourd'hui, pas pour Aristote. Le bien, le droit de propriété, il est au niveau de la famille. Ça, on le verra. Quand même très important à voir ça. Il n'est pas au niveau. Un célibataire, comme célibataire, son droit de propriété n'est pas très gros. Tandis qu'un père de famille, en tant que père de famille, il a un droit de propriété beaucoup plus grand. Ça, c'est extrêmement curieux. On verra ça. Parce que c'est une des questions aussi très délicates sur laquelle on se bataille indéfiniment. Et je comprends, parce que c'est difficile, c'est des questions qui sont délicates. Il ne faut pas les affirmer trop vite. Parce que ce sont des questions délicates. C'est comme la peine de mort. Ce sont des questions complexes. Ce n'est pas du tout des questions simples. Alors, parce que c'est des questions complexes, n'ayons pas de solutions simplistes. Ayons des solutions en disant, mais oui, c'est difficile. Il y a le droit de prouver. Eh bien, bien commun, c'est une question complexe. Ce n'est pas du tout simple. Quel est le bien commun d'une communauté religieuse? Quel est le bien commun d'un pays? Comme c'est complexe, le bien commun d'un pays. Vous voyez, c'est très difficile ces choses-là. Bon, alors, je dis, tous peuvent avoir usage de ce bien commun. Diversement, non, pas tous usage de la même façon. Et là va intervenir justement la justice distributive. Là va intervenir la justice légale pour régler l'usage du bien commun. L'usage du bien commun est réglé par tout ça. Donc Aristote en parle tout le temps du bien commun, puisqu'il parle de la justice distributive et de la justice légale. Je ne peux pas parler de la justice distributive et de la justice légale sans faire allusion au bien commun. C'est impossible autrement. Donc le bien commun est présent dans l'exercice de la justice distributive et de la justice légale, dans la justice commutative aussi, mais d'une autre manière. C'est normal que la justice est là pour régler l'usage du bien commun. Et qui a un droit sur le bien commun ? Qui a un droit sur le bien commun ? La communauté comme communauté. C'est tout pour un droit. Si vous dilapidez le bien commun, tout le monde s'insurge. Parce que tous ont un droit sur le bien commun. Tous et personne individuellement. C'est très curieux. C'est très curieux. Alors, c'est un... Qu'est-ce que ça représente, ce droit ? Oui, c'est le point de vue de la personne morale qu'on dira ça. Oui, mais quand on dit la personne morale, c'est très bien, on met un mot, mais qu'est-ce que ça veut dire, la personne morale ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, la personne morale qui a un droit? La communauté comme telle a ce bien commun. Ah oui. La communauté, son unité est une unité morale, c'est-à-dire si elle recherche la même finalité. La personne morale, ça implique la rechercher une finalité. Donc, au-delà du bien commun, il y a la finalité d'une communauté. Je ne crois pas qu'on puisse dire que le bien commun, c'est la finalité. C'est aussi très délicat. Le bien commun n'est pas la finalité, je ne crois pas du tout. Parce que le bien commun est immanent. Et la finalité d'une communauté, elle est quand même au-dessus. Alors évidemment, la frontière entre les deux est très difficile à saisir. très difficile. De temps en temps, on a l'impression vraiment que la finalité de la communauté, c'est bien, vraiment le bien commun. Il faut moins se poser la question. Je vous dis ça à titre de recherche, parce que c'est vraiment cela qu'on doit préciser si on veut comprendre ce que c'est qu'une philosophie politique. Alors, j'essaie de chercher quelle est la causalité, la finalité d'une communauté et le bien commun d'une communauté. Est-ce que c'est identique? Le bien finalise, oui. Mais le bien commun est immanent. Alors, en tant qu'il est immanent, il ne finalise plus. Vous savez, il y a un ronron communautaire. Et le ronron communautaire, c'est peut-être au moment où on identifie finalité bien commun. Parce qu'à ce moment-là, on tombe dans l'immanence. On dit tous en même temps, ah, oh, tout le monde, même tonalité, le ronron communautaire. On a tous les mêmes opinions. C'est merveilleux. On a tous les mêmes opinions. On n'a jamais été aussi unis, on a tous les mêmes opinions. C'est peut-être parce que vous dormez. Alors il n'y a plus de finalité. Il n'y a plus de dépassement. Il n'y a plus de recherche. Il n'y a plus d'acquisition, il n'y a plus de croissance. Alors, c'est la mort. Oui. Alors, il faudrait regarder la croissance d'une communauté. Puis la chaîne verticale. Alors, c'est peut-être au moment de l'acmé où la finalité et le bien commun vont s'identifier. Et puis, alors, après, c'est le rond. On vit du bien commun, on vit de son capital acquis. Bien commun, c'est un certain capital. Il faut essayer de réfléchir là-dessus. Parce que c'est important, c'est sûrement une clé, la question du bien commun. Et c'est très difficile à préciser. C'est très très difficile. Ceux qui disent des choses trop claires sur le bien commun, j'aime pas beaucoup. Parce que je crois que le bien commun ne se définit. Il ne se définit pas. Donner une définition du bien commun, pour moi, c'est tuer le bien commun. C'est un bien. Et le bien ne se définit pas. Le bien, c'est ce que tous désirent. Alors, le bien commun, c'est ce que tous désirent dans une communauté. Oui, tous désirent. Et le désir est la finalité. Au-delà du désir, il y a une finalité. Alors, est-ce que le bien commun est la finalité ou est-ce que une communauté n'est finalisée que par un au-delà de la communauté? Ça, c'est une question importante. Si une communauté était finalisée par le bien commun et que le bien commun est immanent, donc une communauté serait une communauté qui s'enfermait en elle-même. Elle serait close. Complètement enfermée en elle-même. Alors, est-ce que ça, c'est pas la mort d'une communauté? Est-ce qu'une communauté ne commence pas à mourir le jour où on est tellement bien ensemble? C'est comme dans une famille. Les enfants sont tellement en admiration devant leur père et leur mère qu'ils ne se marient jamais parce qu'ils ne trouveront jamais un père, un fiancé, une fiancée qui sera tel au père et la mère. Donc ils ne se marieront jamais. J'ai connu des trucs comme ça, c'est extraordinaire. Six vieux garçons et six vieilles filles, c'est merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas, c'est impossible. On ne peut pas quitter ses parents. Ils sont tellement bien. Mais alors on a la famille qui s'enferme. C'est le ronron. Ben, ça meurt. Évidemment, la mort du dernier, c'est sûr. Tandis qu'une famille progresse quand justement à partir d'une famille, il y a d'autres familles. Et ainsi de suite, vous voyez. Il y a un progrès. Alors à ce moment-là, au-delà du bien commun, il y a une finalité. Et la finalité va être quelque chose qui, d'une certaine manière, fait éclater. Oui, morale fermée, morale ouverte. Il y a quelque chose comme ça, la morale fermée, la morale ouverte. Et alors, il y a des communautés fermées, des communautés ouvertes. Alors, est-ce que la communauté fermée, encore une fois, je pose des questions, je ne les dis pas de façon absolue, il faut y réfléchir. que je crois que c'est une question capitale pour nous. Est-ce que la communauté n'est-elle pas fermée quand justement la finalité se ramène au bien commun? Là, on pose bien la question. Ou une communauté est ouverte quand justement on comprend que le bien commun, parce qu'il est un bien immanent, nous permet de dépasser la communauté. Alors, c'est ouvert. Il y a des fenêtres ouvertes. Tandis que quand tout est fermé, il y a une perte d'oxygène qui se fait assez rapidement et ça sent le renfermé. Et alors, quand ça sent le renfermé, c'est quelquefois pas très très bon pour la vie de la communauté. Il manque d'oxygène. Il manque d'un dépassement. Et ce dépassement est capital. Alors voyez, préciser la finalité d'une communauté. Alors la finalité d'une communauté est-elle justement la finalité propre de chaque individu? Le respect que chaque individu découvre son bien personnel. Qu'en définitive, ce n'est pas ça la finalité d'une communauté. Et non pas le point de vue du bien commun comme tel. Le bien commun, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? D'où ça vient le bien commun? Qu'est-ce qui réalise le bien commun? Le bien commun, c'est chaque, dans la communauté politique, c'est chaque citoyen qui l'acquiert. C'est chaque citoyen qui l'acquiert. Donc le bien commun provient de la coopération. Donc la cause efficiente, d'où ça vient? La coopération. Le bien commun progresse en fonction de cette coopération. C'est le fruit de cette coopération. Réaliser ensemble une œuvre. Écrire ensemble un bouquin. On est plusieurs à l'écrire, on le réalise ensemble. On l'imprimer ensemble, le relier ensemble, et ainsi de suite, toutes les choses. La coopération qui fait qu'à partir de ce moment-là, l'œuvre réalisée fait partie du bien commun. Et je crois qu'à la source de tout bien commun, il y a une coopération. Quand il n'y a plus de coopération, il n'y a plus de bien commun. Donc, vous voyez, le bien commun demande d'être dépassé. Alors, le dépassement du bien commun, je dirais, la finalité personnelle de chacun. Qui est, d'une certaine manière, la finalité de la communauté et qui est, en même temps, au-delà de la finalité de la communauté. C'est pour ça qu'on peut discuter là-dessus. La cause efficiente, c'est la coopération. On réalise ça. On réalise ensemble quelque chose, et réalisant ensemble quelque chose, il y a quelque chose qui peut se faire, alors c'est le bien commun. Alors, le bien commun, c'est donc ce bien immanent dont tous peuvent avoir l'usage, selon un certain ordre. C'est un bien qui demande de progresser. On ne peut pas arrêter le bien commun. Puisqu'il est relatif à quelque chose qui est au-delà de la communauté. Il n'y a pas de limite, au fond. C'est en ce sens-là qu'il est un bien. Et c'est en ce sens-là qu'il transcende l'usage de chacun. Un membre de la communauté ne peut pas limiter le bien commun. Alors, on voit par là comment le bien commun peut donner un nouvel aspect à la philosophie, qu'on appellera la philosophie politique. La philosophie politique, il faut bien qu'il y ait un principe pour la philosophie politique. Alors, quel est le principe nouveau? Puisqu'il n'y a de philosophie que dans la mesure où on découvre une causalité propre, une finalité propre, du moins un principe propre. Je crois que c'est le bien commun qui me donne un nouveau principe qui n'est ni en éthique, ni dans la philosophie du Fachere. qui est vraiment un principe, mais un principe d'une qualité tout à fait particulière. C'est une finalité d'un caractère tout à fait particulier. Parce que c'est une finalité qui me transcende, mais c'est en même temps une finalité dans laquelle je suis co-efficiente. Cette chose très curieuse. Vous voyez, on a quelque chose d'analogue, en renversant du reste, mais on a quelque chose d'analogue avec le point de vue de l'œuvre. Au point de vue de l'œuvre, on dira « finis effectus ». L'œuvre est une fin, et c'est un effet. En tant qu'effet, l'œuvre ne finalise pas. En tant que fin, l'œuvre finalise. N'importe quelle œuvre, hein, prenez n'importe quelle œuvre, prenez un petit travail que vous venez de faire, hein, une dissertation. C'est une œuvre. Je ne dis pas la valeur, mais c'est une œuvre. Donc c'est une fin et c'est un effet. C'est pour ça que normalement, quand vous avez terminé votre dissertation, oh, pouf, hein, vous êtes heureux. Vous reposez. Maintenant, je peux me reposer. Je peux regarder ça d'un peu loin. Tant que vous êtes pris, vous êtes obligé de le faire. Vous êtes attelé à ça. Et quelquefois, vous n'en dormez plus. Parce que si vous êtes obligé de le faire. Dès que vous avez terminé, vous allez recommencer à dormir. C'est peut-être le moyen de se remettre à dormir, vous voyez. C'est de faire quelque chose et puis d'arrêter. Parce que si immédiatement après, il y a encore quelque chose d'autre, alors ça va s'embrayer et on ne fera plus. Tandis que la fin, c'est un résultat et c'est une fin. Quand il s'agit du bien commun, c'est une fin. Et c'est aussi, puisque c'est le fruit de la coopération, c'est donc aussi un fruit. Le bien commun, c'est mon fruit, c'est le fruit du voisin, et en même temps, c'est ma fin dans l'usage. Donc, on a quelque chose d'analogue avec l'œuvre. Et c'est vrai, c'est d'une certaine façon l'œuvre d'une communauté. L'œuvre d'une communauté, c'est d'avoir un bien commun. C'est de réaliser un bien commun. Une communauté n'a aucune fécondité, n'a plus aucune fécondité parce qu'il n'y a plus de bien commun. C'est une certaine fécondité de la communauté de pouvoir réaliser ce bien commun. Nous sommes donc en présence d'un principe, mais d'un principe très particulier, puisque c'est en même temps un résultat. Alors vous voyez la grosse question. Quand il s'agit de la philosophie de l'art, ce n'est pas l'œuvre qui commande toute la philosophie de l'art. Sauf dans une perspective phénoménologique, Dufresne. Dufresne fait toute son esthétique à partir de l'œuvre. C'est très significatif. Et c'est très intéressant, du reste. À partir d'une œuvre. Je dirais non. On doit faire la philosophie de l'art à partir de l'inspiration. C'est l'inspiration qui nous donne un principe propre avec une idée qui naît à l'intérieur de l'inspiration. Et le principe propre de toute philosophie de l'art, c'est l'idéal. S'il n'y a pas d'idéal, je ne crois pas qu'on puisse faire une philosophie artistique. On peut. Dans la mesure où on retrouve l'idée, on peut. Autrement, on est dans l'ordre de l'exécution. La philosophie du travail est en dépendance de la philosophie de l'inspiration. C'est très curieux. Il n'y a pas de philosophie du travail pour la philosophie du travail, au sens propre. Elle est toujours liée à l'idée, toujours liée à l'inspiration. Alors, la grosse question pour la philosophie politique, le bien commun. Bon, le bien commun, c'est fin fruit. L'œuvre ne suffit pas pour donner une philosophie. Alors, y a-t-il en politique quelque chose d'analogue à l'idéal ? Alors, vous allez dire le projet politique de l'homme d'État. C'est la même œuvre. Je pousse jusqu'au bout, j'essaie de comprendre, parce que c'est pas comme l'œuvre. Alors, est-ce que le projet politique me permet de construire une philosophie politique ? Et est-ce que la philosophie politique va tenir compte du projet politique? Sûrement que le projet politique a beaucoup d'importance. C'est le législateur. Il a un projet politique. Et plus on est en état de crise, plus le projet politique semble sauveur. Et on dit, ça y est. Est-ce que le projet politique qui est au niveau de la prudence va permettre de fonder une philosophie politique? Est-ce que la prudence permet de fonder une philosophie de l'agir? Non. La philosophie de l'agir est fondée sur la finalité, sur l'amour. Et la finalité, rien n'est un peu coincé. Pas comme du tout comprendre le statut scientifique, philosophique de l'esprit politique. Je vois très bien que le bien commun en tant que bien, mais c'est vrai, ça, c'est une certaine fin, mais en tant que commun, il est le résultat, il est immanent. C'est pas entièrement une fin. Le projet politique qui pourrait sauver est le fruit d'une prudence politique. Il est le fruit d'une prudence politique. Or, la prudence ne suffit pas pour donner proprement un statut philosophique et éthique. Parce que la prudence est quelque chose de second, c'est pas un principe, la prudence, au niveau philosophique. C'est source d'activité, c'est très intéressant, c'est très important, c'est capital, mais alors, vous voyez, on se pose la question. Et je crois qu'il faut accepter, alors c'est là où je crois qu'en définitive, il faut accepter, que la philosophie politique a un statut tout à fait particulier. Et qu'en réalité, la philosophie politique n'est qu'une philosophie, je ne dis pas mineure, ce ne serait pas ça, mais une philosophie qui n'aura pas la clarté, la lumière de l'éthique et de la philosophie de l'art. On sera en présence d'une philosophie en laquelle le conditionnement humain va jouer un rôle très important. Le bien commun. Qui dit bien commun montre bien le conditionnement, puisque c'est le résultat, c'est le fruit. Et qu'il ne peut pas y avoir de bien commun sans regarder le conditionnement dans lequel se trouvent les membres d'une communauté. Alors c'est très curieux, vous voyez, le tiesti et le pos se trouvent unis. Je ne peux pas faire une philosophie politique en abandonnant le conditionnement des citoyens. Les deux choses se tiennent. Et ce qui fait comprendre comment cette philosophie est quand même beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à réaliser que lorsqu'il s'agit de l'éthique personnelle, ou bien quand il s'agit tout simplement même de la philosophie de l'art. La philosophie de l'art est plus lumineuse au niveau philosophique que la politique. J'ajouterai un troisième élément qui montrerait, c'est l'importance de la rhétorique en politique. Alors ça, Platon le montre d'une façon magnifique, et Aristote maintiendra la chose. Il dira que la rhétorique est à la politique ce que la logique est au niveau proprement spéculatif. Ah, ça c'est intéressant. Ça prouve qu'il n'y a pas de logique dans cette philosophie et que vous êtes en face d'une rhétorique. Alors ça fait qu'il y a un conditionnement de la philosophie politique qui est quand même très très particulier. Il ne s'agit pas de chercher en philosophie politique une clarté, une précision, une détermination aussi grande qu'en éthique. Il faut accepter qu'en philosophie politique, oui, on sera souvent en face d'un raisonnement qui n'aura pas la même rigueur. Et cette fameuse chose qu'Aristote dit, et que je crois très profonde, que saint Thomas du reste a repris, qu'on ne doit pas demander à toutes les matières qu'on travaille la même possibilité de détermination de notre intelligence. Il est évident que la philosophie politique, il est évident que la philosophie pratique est moins précise que la philosophie théorétique. Et dans la philosophie pratique, la moins précise, c'est la philosophie politique.